Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 20 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est intitulée La vache et le potager et elle est issue de l'alphabet de la sagesse de Johanna Marin-Coll et Lydia Marin-Ross. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un brave homme qui avait pour voisin un couple d'incorrigibles rêveurs. Il les entendait souvent raconter et imaginer ce qu'ils feraient plus tard. Un soir, il entendit l'homme dire à sa femme « Dès que nous aurons assez d'argent, j'achèterai une belle vache. »« C'est une excellente idée, » lui répondit sa femme. « Ainsi je pourrai la traire. J'ai déjà pour cela 5 cruches, une pour le lait, une pour le beurre, une pour la crème, une pour le fromage. » « C'est bien, lui dit son mari, mais la 5e cruche, à quoi va-t-elle servir ? Celle-là servira à apporter à ma sœur le lait que nous aurons en trop. »« Quoi ? Cria l'homme. Depuis quand vas-tu donner du lait à ta sœur, et cela sans m'en demander la permission ? » Sa femme répondit, « C'est moi qui prendrai soin de la vache, je ferai donc ce qu'il me plaît avec le lait en trop. » « Comment ?» se mit à hurler le mari. « Je travaille comme un fou pour acheter une vache et toi, tu veux donner tout le lait à ta sœur ? Il n'en est pas question !» Et il brisa l'une des cruches en 1000 morceaux. Leur voisin, entendant ce vacarme, décida de leur donner une leçon. Il se rendit chez eux et demanda innocemment. « Que se passe-t-il, chers amis ? J'entends des cris. Est-il arrivé quelque chose de grave ?» Le mari le prit immédiatement à témoin. « Ma femme veut donner à sa sœur tout le lait de notre vache, » lui explique-t-il furieux. « Votre vache ?» demanda le voisin. « Mais quelle vache ?»« Celle que je vais acheter dès que j'aurai assez d'argent, » répondit l'homme. « Mais vous n'avez pas encore de vache ?» demanda le voisin. « Dans peu de temps, nous en aurons une, » affirma le mari. « Ah !» dit le voisin, prenant un air furieux. « Je commence à comprendre ce qui arrive à mon jardin potager. »« Comment ?» dit le mari interloqué. « Oui !» cria le voisin. « Votre vache mange tous mes légumes et vous la laissez faire !»« Mais quels légumes ? » demanda le mari de plus en plus étonné. « Ce que je vais planter !» hurla le voisin. « Mes beaux concombres, mes belles laitues !» !»« J'y pense depuis longtemps et votre vache est en train de les détruire !» Le couple comprit soudain l'absurdité de la dispute. Et tous les trois se mirent à rire gaiement. N'essaie pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veux ce qui arrive comme il arrive, et tu couleras des jours heureux. Épictète. Si à l'épisode précédent je vantais l'intérêt de se projeter dans l'avenir, ce conte à l'inverse nous invite à nous centrer sur le moment présent. Je ne sais plus qui était l'homme qui disait « Si j'ai dit tout et son contraire, c'est pour être sûr de n'avoir rien oublié. » En fait, il est à nouveau ici question de faire du « et ». Avoir une vision claire de ce que l'on veut est pertinent pour rentrer dans une dynamique d'évolution. Et savoir vivre pleinement dans le moment présent nous permet d'augmenter notre bien-être. La société ultra rapide dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous propulse vers l'avenir à une vitesse folle. Notre style de vie fait que nous enchaînons les activités en mode automatique. Nous gérons un quotidien qui passe trop vite et nous devons produire sans cesse des résultats. Notre corps est là, bien sûr, mais notre esprit est ailleurs. Il est dans les ruminations d'un passé douloureux, dans le regret nostalgique d'une période heureuse révolue, dans le futur appétissant de la réalisation de nos objectifs. Ah, le jour où j'aurai acheté cette maison, comme je serai heureuse. Ou au contraire, dans les inquiétudes, dans les projections anxieuses. Et si j'attrapais une forme grave du Covid ? Ou encore, dans le critique intérieur, je ne suis pas à la hauteur, ou dans la comparaison permanente, elle est tellement plus à l'aise en société que moi, etc., etc. Si bien que notre corps et notre esprit sont déconnectés. Nous ne sommes plus présents à notre vie. Or, moins nous sommes présents à notre vie, moins grand est notre bien-être. Pourquoi attendre d'être malade avant d'apprécier le miracle de la vie ? Pourquoi craindre de perdre quelque chose avant même d'en jouir ? Pourquoi attendre que notre partenaire nous quitte pour réaliser à quel point nous l'aimons ? Cela paraît absurde et pourtant ces questions font souvent mouche. Si nous ne nous reconnaîtrions pas un peu dans le conte d'aujourd'hui, nous serions tentés de rire du ridicule de la situation. Le conte met en scène un jeune couple qui se projette tant dans le futur qu'ils en viennent à se disputer réellement sur quelque chose d'encore inexistant et qui peut-être n'existera jamais. Ils sont à l'opposé du fermier chinois de l'épisode 2 de La vie est un conte, qui, rappelez-vous, pleinement ancré dans le présent, il en arrive à accepter tous les événements de manière neutre, sans jugement, ni aucune projection sur les conséquences de ceci. Ici, nous pourrions penser que les époux se disputent pour le plaisir même de la dispute. On pourrait même y voir ce que Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, appelle un jeu psychologique, et qu'il définit ainsi le déroulement d'une série de transactions cachées, complémentaires, progressant vers un résultat bien défini, prévisible. Il existe différentes façons de présenter le déroulement d'un jeu psychologique. Regardons de plus près le triangle dramatique de Stephen Karpman, qui tient ce nom de dramatique du fait que pour l'établir, Karpman a étudié le conflit au théâtre. Il s'est alors aperçu que systématiquement, pour qu'un drame se déroule, il faut trois rôles, un persécuteur, un sauveteur et une victime. Deux personnes discutent. Pour commencer un jeu, chacun des protagonistes prend inconsciemment l'un des trois rôles du triangle. En général, celui qui a sa préférence. Elles poursuivent leur discussion, l'une comme persécuteur, l'autre comme victime par exemple. Et à un moment donné, arrive le coup de théâtre. L'un des deux joueurs va prendre ses bénéfices, comme on dit dans le milieu boursier, et il va changer de rôle. Et par exemple, s'il était persécuteur, devenir une victime. L'autre accuse le coup et change également de position. L'homme du conte entre par la porte du persécuteur en criant après sa femme, puis se présente comme une victime. « Je travaille comme un fou pour acheter une vache et tu veux donner tout le lait à ta sœur ?» D'ailleurs, on peut remarquer au passage la mauvaise foi du mari qui passe de la cinquième cruche à tout le lait. Il arrive alors, dans le conte, un sauveur qui est le voisin. Il est sauveur en ce sens qu'il vient se mêler de la situation même si on ne lui a rien demandé. Dans l'histoire, le fait de réaliser l'absurdité de la situation fait sortir les trois protagonistes du triangle par un grand éclat de rire. Souvent, on voit dans ce triangle de Karpman que le sauveur, à son tour, n'arrivant pas à sauver la situation, devient persécuteur ou alors lui-même la victime des autres protagonistes qui lui en veulent de ne pas être à la hauteur. Les jeux psychologiques sont inconscients et répétitifs. Dans le cas de notre conte, il y a fort à parier qu'ils vont se rejouer sous une autre forme, tant que les joueurs ne font pas un travail sur eux pour conscientiser le phénomène. Pourquoi ? On peut se demander, pourquoi joue-t-on ? On joue pour avoir des bénéfices, même s'ils ne sont pas très agréables. Ces bénéfices peuvent être nombreux. Revivre un type de relation expérimentée dans l'enfance, obtenir un type de signe de reconnaissance que l'on n'aurait pas eu autrement, valider ses croyances sur soi ou sur les autres. Dans notre conte, Le mari peut, par exemple, se dire qu'il a raison de croire que sa femme est une ingrate et qu'il lui est bien supérieur. Alors, passé ce petit détour par l'analyse transactionnelle, revenons au message phare de ce conte. Vivons au présent. À quoi pourrons se faire de la bile pour quelque chose qui n'aura peut-être jamais lieu ? Observons d'abord comment nous agissons nous-mêmes et comment agissent nos proches. Lors, par exemple, d'un déjeuner avec des collègues, des amis ou de la famille, observons les sujets de discussion. Combien concernent le passé ? Combien le présent ? Et combien le futur ? Pour vous aider à être davantage dans le moment présent, j'ai envie de vous proposer un exercice de Béatrice Millettre, qui est docteur en psychologie. Il s'agit, avant de se coucher, de prendre un moment au calme, confortablement installé, et de se repasser mentalement le film de notre journée, tranche par tranche. Rien que faire cela, en essayant de se souvenir du plus de détails possible, permet petit à petit d'être plus attentif au moment présent. Je l'ai expérimenté notamment quand j'étais en école de théâtre, puisque une de mes professeurs nous avait demandé justement de faire ça, et j'avais trouvé ça très intéressant. Mais Béatrice Millettre va plus loin. L'idée est de s'arrêter sur les moments, quand nous nous repassons le film, où nous avons vécu de manière quasi automatique. Prendre le petit déjeuner, le métro, nous installer à notre bureau, assister à une réunion. Et de les visualiser en se demandant ce que nous aurions pu ressentir, sensations physiques et émotions, si nous les avions vécues de manière plus consciente. Le lendemain matin, au réveil, il s'agit de programmer les différents moments de la journée au cours desquels nous serons attentifs à ce qui se passe en nous et autour de nous. Nous pouvons les noter pour ne pas les oublier. Le soir, nous repassons à nouveau le film de la journée, moment par moment, en nous remémorant le plus précisément possible les sensations et les émotions éprouvées. Notons les instants qui ont échappé à notre vigilance et reprogrammons-les le lendemain matin, etc., etc. Cet exercice réalisé au fil des jours permet d'être plus conscient de nos sensations et de nos émotions. Nous nous sentons plus attentifs, plus concentrés, davantage acteurs de nos vies. Concernant l'outil que je souhaite proposer pour le domaine de l'entreprise, comme j'ai évoqué le triangle dramatique de Stephen Karpman, mon invitation, en réunion par exemple, est de noter sur une feuille le triangle avec les lettres P, V, S pour les trois rôles persécuteur, victime et sauveur, pour observer si je peux identifier des triangles dans mon écosystème et surtout voir dans quel triangle je rentre moi-même pour pouvoir ainsi en prendre conscience et en sortir. Pour en sortir, il s'agit d'identifier quels sont mes bénéfices dans cette histoire. Et ensuite, une fois que j'aurai compris mes bénéfices, je peux travailler pour assouplir mes croyances. Pour cela, je vous renvoie à l'épisode 1 de La vie est un conte sur la déconstruction des croyances limitantes. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode intitulé Le Pagne. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !